Semaine Sainte 2018.
Semaine Sainte 2018.
Semaine Sainte 2018 avec la communauté des Béatitudes.
Bienvenue dans sur votre radio chrétienne pour cette Semaine Sainte. Nous retrouvons Étienne Dallaire et bientôt le Père Michel-Martin Prével et Sœur Cindy. Nous allons dans cette demi-heure parler du mystère du jour. Mais d'abord, Étienne, quelques mots de bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent.
Eh bien oui, exactement. Bienvenue aux auditrices et auditeurs du Pays Basque avec Radio La Purdie, du Gard avec Radio Ecclesia, de Corse avec Radio Salve Regina et de Mayenne avec Radio Fidélité Mayenne. Bienvenue à tous et très bon vendredi saint, on peut dire ça quand même.
Hier soir, j'ai calculé, c'est un bassin de population de 4,5 millions d'habitants. C'est pas mal quand même. Michel-Martin Prével, vous êtes donc supérieur de cette communauté ici, vous êtes prêtre. Il se trouve, comme particularité, c'est pas l'objet, mais que vous avez été aussi marié, donc vous êtes aussi père de famille et grand-père. Bref, une vie complète, on peut imaginer que ça peut aider à rentrer dans les mystères de la Semaine Sainte, d'avoir une vie aussi complète. Aujourd'hui, donc, c'est le vendredi. Qu'allons-nous parcourir ? Je me disais, peut-être faut-il commencer tout simplement par cette nuit. Où était Jésus ? C'est souvent quelque chose dont on ne parle pas.
Entre le moment où il a été effectivement arrêté à Gethsémani, on connaît bien cette scène avec la reconnaissance par Judas. Il est emmené, il va déjà passer fort tard au Sanhédrin, ou ce tribunal un peu des autorités juives. Et en fait, il va passer l'essentiel du reste de la nuit emprisonné, comme tant de gens sur la terre. Et on dit, c'est une vision de Marthe Robin, qu'il a été mis dans une citerne.
Grande mystique française.
Grande mystique. Dans une citerne, à la façon de Jérémie. Peut-être même qu'il aurait été suspendu à une corde. Il a passé de nombreuses heures, là, à la fois dans la solitude. Et cette angoisse qu'il a déjà connue à Gethsémani, qui commence à trouver son objet. Il commence déjà à participer à la souffrance du monde. Et c'est toute cette nuit, on sait ce qu'est la nuit, surtout quand l'aurore n'est pas encore là. C'est un peu toute l'angoisse et toute la souffrance du monde qui déjà se concentre sur celui qui est à la fois Dieu et en même temps qui a voulu être homme parfaitement.
Il y a un lieu supposé en Terre Sainte, justement, qui est le lieu d'enfermement. C'est un lieu en tout cas bouleversant. Le jour se lève, comme ici, et j'allais dire, c'est probablement un peu trivial, mais quelle va être la journée de Jésus ?
Alors c'est une longue journée qui va commencer tôt sans doute, et c'est donc déjà tous ces jugements qu'il aura à subir de la part de l'occupant romain avec Pilate, comme de son propre peuple, par l'intermédiaire du grand prêtre et de tous les anciens. Donc c'est une succession de jugements, mais aussi de coups et d'injures et de colibés. C'est déjà la foule qui commence à être près de lui pour cette réprobation générale. Donc c'est un ensemble de choses. Ceux qui ont vu le film de Mel Gibson, qui a peut-être traduit de façon très, très crue et très vivante tout cet ensemble de ce que Jésus a pu vivre tout au long de cette journée. C'est comme, ce n'est pas l'homme peut-être qui a le plus souffert sur la terre, ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais parce qu'il est Dieu, il a souffert d'une façon très particulière. C'est ça qui fait l'attention des chrétiens sur ce vendredi saint.
On s'est dit qu'on allait, comme hier, pour peut-être pour être didactique, prendre quelques phrases du pape François, qui connaît un succès immense et qui a souvent l'art de la formule. À propos du chemin de croix, après le jugement de Jésus, enfin sa présentation devant les grands prêtres, puis devant Pilate, il est donc flagellé et il est condamné à mourir sur une croix. Il y a donc ce long trajet vers le Golgotha. Dans une catéchèse pour le Triduum Pascal de 2015, le pape François avec cette phrase « Partagez les sentiments et les attitudes que Jésus a connus au jour de sa passion, c'est ainsi que vous ferez de bonnes Pâques ». Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots ? Comment fait-on pour entrer dans les sentiments de Jésus à l'occasion du chemin de croix ? C'est très compliqué, non ?
Alors j'aime bien dans cette phrase du pape que ça s'oriente effectivement à faire une bonne Pâque, mais il n'y a pas de vrai dimanche sans vrai vendredi. Et donc c'est aussi imiter le Christ dans tout ce qu'il a parcouru, c'est pour ça qu'on parle d'un chemin et d'un chemin de croix, c'est ce qu'on a dit pendant des siècles, l'imitation de Jésus-Christ. Alors ce n'est pas d'une façon doloriste ou d'une façon masochiste que l'on va s'appesantir sur cette souffrance, mais c'est surtout en regardant la façon dont il l'a vécue, c'est du côté de son cœur, la façon dont il est capable d'être si proche de toute souffrance humaine. Se rapprocher du Christ quand il est sur le chemin de la croix, ça va de pair avec se rapprocher aussi de toutes les souffrances humaines. Et c'est le double amour, aimer Dieu particulièrement quand il est capable de vivre cela pour nous, mais c'est aussi aimer les autres à travers toutes leurs souffrances. C'est les sentiments, parce qu'il est incarné, comme il est riche de connaître ces sentiments du Christ qui ont été que humilité, douceur, bienveillance au cœur de ce paroxysme de la souffrance.
Vous citiez tout à l'heure le film de Mel Gibson, La Passion. Il s'est inspiré entre autres des révélations privées d'une mystique, Anne-Catherine Emmerich, qui dans ses révélations parle d'un événement qui aurait eu lieu à l'occasion du chemin de croix qui n'est pas cité dans les évangiles, où Jésus aurait embrassé la croix. Est-ce que vous pourriez et expliquer cela, qu'est-ce que cela signifie?
Alors là aussi, ce n'est pas la mort ou la souffrance qu'il est en train d'embrasser, c'est beaucoup plus le fruit que va être cette croix. Et le christianisme, pendant des siècles, a bien vu la croix, pas seulement comme un instrument de torture, mais l'a vu aussi comme un arbre fleuri, l'a vu comme une échelle vers le ciel, un livre, comme disait le curé d'Ars. C'est donc en méditant ce que peut être la croix, et on va aller jusqu'à l'adorer, c'est ce que nous allons faire ce soir, nous allons même adorer la croix alors qu'il s'agit d'un objet matériel, mais c'est parce que le Christ y est dessus que ça prend tout son sens, et donc c'est aller finalement à l'essentiel de ce mystère du salut, qui est un mystère d'espérance, et voilà pourquoi le Christ peut embrasser la croix, parce qu'il a choisi librement ce moyen-là pour se rapprocher de quiconque peut être au plus profond de la souffrance ou de l'épreuve.
Donc c'est un acte libre que le Christ pose. Est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer pour ceux qui sont écrasés par la souffrance qu'ils constatent, sur la manière opportune de prendre et d'accompagner Jésus dans ce chemin?
Bien, de fait, je crois que c'est important ce jour de se rapprocher tout particulièrement de ceux qui n'ont pas cette espérance, de ceux qui sont trop écrasés, de ceux qui sont tombés, comme le Christ est tombé 3 fois sur le chemin de croix, de ceux qui ont connu les coups, de ceux qui n'ont pas cette lumière parce qu'elle n'est pas encore là dans leur vie. Le Christ nous montre qu'il peut vivre cela surtout par amour et que c'est cet amour, l'amour avec lequel il peut se rapprocher de tous ceux qui souffrent, qui redonne cette espérance et cette lumière à ceux qui doivent attendre d'un Dieu qui n'est pas loin de leur souffrance, mais qui a au contraire franchi cette distance impressionnante. C'est du paradoxe, c'est même du scandale, parce que les croyants aujourd'hui, certains sont encore scandalisés, comme le disait saint Paul, c'est un scandale pour les croyants et c'est une folie pour les païens. Et c'est pourtant dans ce paroxysme, comme un Arnaud Beltram qui meurt comme ça pour sauver quelqu'un, c'est scandaleux et ça peut être absolument scandaleux. Et pourtant, c'est cet acte-là qui fait jaillir une lumière, comme on voit la France qui s'est soulevée quand elle comprend qu'un homme peut donner sa vie pour quelqu'un parce que ce sont ces valeurs-là qu'il veut défendre à travers le don même de sa vie.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots des 7 paroles du Christ en croix? C'est donc le Christ en croix a prononcé 7 paroles. Et alors, l'Église, tout au long de son histoire, a médité ces paroles.
On les tient de l'Évangile, ce sont les témoins même de ces scènes-là qui ont rapporté ces 7 paroles, je les dis rapidement. D'abord le pardon, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pu dire aussi à un condamné avec lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Il a donné Marie aussi à Jean et réciproquement Jean à Marie pour établir aussi le rôle de Marie dans ce moment si important. Il a pu aussi signifier d'une façon très humaine un « j'ai soif » qui qualifie aussi sa soif qu'il a de rejoindre tout homme dans quelques situations. Et puis il finit avec « tout est accompli et entre tes mains je remets mon esprit ». Il y a là une paix impressionnante de celui qui est en train de finir ses jours dans une grande souffrance. Et au cœur de toutes ces paroles, il y a cette parole très connue qui a été beaucoup commentée.
Eli,
lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le début de ce fameux psaume 22, Et quand un juif prononce un psaume, il n'en dit que le début pour appeler l'attention sur l'ensemble du psaume. Et ce psaume se termine dans une croissance extraordinaire avec de la louange et cette espérance du salut. Donc ce « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est à la fois le cri d'un homme qui a tout connu de la souffrance humaine et qui en même temps, à cause de ce psaume qui se termine dans la louange, qui en même temps fait complètement la volonté du Père et va de fait sauver le monde entier. C'est un événement qui est autrement dit hors de l'histoire. Voilà pourquoi la croix reste le signe cohérent de toute la foi chrétienne.
Ça veut dire quoi, hors de l'histoire ?
Parce qu'il n'est pas que d'un moment, c'est pas simplement comme la bataille d'Austerlitz ou un moment. C'est parce que c'est un moment qui est sorti de l'histoire pour rejoindre tout homme. Et c'est ce que fait la liturgie. La liturgie, c'est hors du temps. Le pape dit que l'espace, que le temps est au-delà de l'espace. Eh bien, c'est comme un moment qui est hors du temps parce qu'il peut se revivre à n'importe quel moment de l'histoire. Et aujourd'hui encore, en 2018, nous vivons la même chose. Nous vivons tout près du Christ dans ce moment où il sauve, où il va vaincre. C'est aussi une victoire, la croix. C'est une victoire sur le pouvoir du mal.
Il y avait une dernière phrase qu'on voulait commenter ensemble, c'est une phrase à propos de la mort de Jésus. « Nous nous tournons vers toi », dit le pape, c'était en conclusion du chemin de croix 2017 au Colisée, « Nous nous tournons vers toi, les yeux baissés de honte et le cœur plein d'espérance, nous nous agenouillons honteux dans l'espérance. » Comment est-ce que vous commenteriez cette phrase ?
Parce que cette honte, elle est au cœur de l'humain, parce qu'il y a de la honte à voir ce que fait le mal, à voir ce que produit la division. Il y a de la honte parce qu'elle n'est pas là simplement pour nous enfoncer dans ce mal, en le constatant comme d'une façon inactive. Mais c'est une honte qui ouvre dans l'espérance, c'est bien ce que dit le pape. Parce que cette honte nous amène au repentir. Elle amène à nous frapper la poitrine, c'est-à-dire à reconnaître nous-mêmes notre part à ce mal. Et en même temps savoir que rien n'est inéluctable dans ce pouvoir du mal et que c'est un Dieu qui, à travers la souffrance d'un homme, a pu retourner ce mal en bien. Car Dieu seul, d'un mal, peut faire un bien. C'est cela aussi le message de la croix.
Merci, Père Michel Martin Prével, de cette introduction, cette magnifique introduction à ce que nous allons parcourir avec nos auditeurs aujourd'hui. Comme hier, on s'est dit qu'il pouvait être bon de trouver à illustrer cela, enfin en tout cas en partie, parce que c'est probablement, on ne peut pas illustrer complètement ce mystère que nous allons contempler. Avec vous, Sœur Cindy, vous êtes membre de la communauté depuis 6 ans, vous êtes depuis 2 ans à Blagnac, bonjour, rebonjour.
Bonjour.
Vous venez ce matin nous parler quelque chose que font probablement un certain nombre d'auditeurs. Vous faites des maraudes avec les jeunes de l'ordre de Malte à Toulouse, une fois par semaine, un soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce temps que vous prenez et en quoi il consiste ?
Donc tout à fait. Une fois par semaine, je rejoins les jeunes de l'ordre de Malte de Toulouse et nous sillons les rues du centre-ville à la rencontre des sans-abri. Et nous sommes tous bénévoles. Alors, notre but, c'est que nous apportons des petites choses rudimentaires, telles que du savon, des brosses à dents, des dentifrices, des boissons chaudes. Notre but, ce n'est pas de sortir les gens des rues, mais de les rejoindre comme des frères en humanité pour lesquels le Christ s'est donné.
Est-ce que vous pouvez décrire les personnes que vous croisez ? Qui croise-t-on quand on va dans les rues de Toulouse ?
On rencontre des personnes de tout âge, avec des histoires différentes, des vies brisées, des familles qui viennent des pays du Nord avec les enfants. Et ces familles viennent surtout en France pour chercher du travail. Et nous, on les renvoie donc à des personnes qui sont à des centres que la mairie de Toulouse organise pour prendre ces personnes. Et on distribue des petits carnets, on leur donne des petits carnets avec des adresses où ils peuvent s'adresser pour dormir, pour manger, pour se revêtir et se laver.
Vous me disiez en préparant l'émission que vous croisez beaucoup de familles. Il ne s'agit pas d'être impudique, mais à Toulouse, il y a des familles qui dorment dehors et il y a des enfants qui dorment dehors. Vous disiez qu'ils dorment dehors, ces enfants, et le matin, ils vont à l'école.
Oui, cet été, j'ai pu croiser deux familles avec des enfants qui dormaient dans la rue et que le lendemain matin, ils partaient à l'école. Et bon, nous avons référé cela parce que sachant que après chaque maraude, un jeune responsable, il fait une remontée à la préfecture de Toulouse de ce que nous avons vécu, des personnes et des cas particuliers comme les enfants et les familles que nous avons retrouvés.
C'est d'autant plus d'actualité que la trêve hivernale se finit et donc il y a un certain nombre de familles qui vont se retrouver à la rue avec ces enfants. Mais on y reviendra probablement à cette antenne. Vous me disiez aussi que pour vous, c'est une manière en fait de faire un chemin de croix hebdomadaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
Oui, bah, comme je vous disais, donc, pour nous, c'est nous décentrer de nous-mêmes pour nous préoccuper de l'autre en lui accordant du temps et de notre personne sans porter de jugement sur lui. Ce que nous apportons, c'est notre compassion humaine. À l'exemple de Sainte Véronique qui n'est pas restée indifférente à ce regard du Christ sur ce chemin de croix.
Donc Sainte Véronique, c'est donc une personne que le Christ a croisée sur le chemin de croix et qui lui a essuyé le visage.
Oui, tout à fait.
Vous nous disiez aussi que pour vous, vous voyez le Christ dans ces personnes. Alors, de la part d'une personne spirituelle, c'est fréquent comme remarque, mais est-ce que vous pourriez préciser, est-ce que c'est simplement une formule ou qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous voyez le Christ dans ces personnes ?
Ben, c'est pas juste une formule, mais quand je rencontre des personnes qui me parlent de leur vie, comment ils ont été traités déjà à leur jeune âge, les adversités qu'ils ont vécues, ignorées, crachées dessus, rejetées par la famille, ben, c'est vraiment le Christ dans sa passion qui a été craché dessus et tout. D'autres personnes qui me parlent de leur solitude, donc c'est le Christ aussi à Gethsémani qui était seul et qu'il n'y a personne pour lui. Non, et surtout moi qui vis de cette adoration chaque jour dans ma vie de consacrée, ben, tous les jours je communie au corps du Christ, je le contemple dans l'adoration. Et là, c'est le Christ qui me permet de le toucher dans sa vulnérabilité, dans ses vies humaines que je contemple, que je partage, que je vis avec.
Dernière chose, c'est est-ce que ces personnes, vous croyez, je sais pas, est-ce que vous êtes autorisé à leur parler de Dieu et est-ce qu'elles peuvent se sentir rejoindre par Dieu, par Jésus, par le mystère qu'on contemple aujourd'hui? Est-ce que ça peut être source de consolation pour elle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver à aller jusque-là dans le dialogue? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on espère quand on est religieux mais qui ne se produit presque pas?
Donc, j'ai pas besoin de parler de Dieu. L'habit fait que les gens me parlent de Dieu, le fait que je suis en habit. Donc, je rencontre des musulmans de toute foi, ceux qui ne croient pas. Il y en a même un homme un jour qui m'a dit qu'il n'avait pas Dieu en lui, qu'il n'était pas enfant de Dieu. Mais je provoque cela puisque je suis en habit. Et c'est comme ça que je discute et je vais un peu plus loin avec eux dans la conversation par rapport à Dieu. Mais je rencontre beaucoup de gens qui prient. J'ai rencontré un jeune homme qui me dit qu'il fait son chapelet, qu'il croit, qu'il porte la croix sur lui. Et au-delà de toutes ces difficultés, il lutte contre toutes sortes d'addictions, mais il a une espérance en Dieu.
Et il se sent rejoint par Dieu ?
Oui, parce que...
Vous avez souvenir de rencontres où vous avez pu constater cela ?
Oui. Et déjà, leur sourire et ils nous disent souvent merci pour ce que vous faites, pour des jeunes, pour étant religieux, merci. Et déjà, ça, c'est touchant. C'est très touchant pour moi. Et quand j'ai rencontré un homme qui avait une telle fidélité avec sa compagne, depuis 8 ans, ils sont ensemble, ils se sont dans la rue. Et qui, lui, il me disait, ben voilà, il a défendu une jeune fille qui était en train de se faire abuser par deux jeunes gars dans la rue. Et là, je suis tout émue en lui disant, mais vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas Dieu en vous, votre conscience est habitée du Saint-Esprit pour pouvoir choisir de défendre au risque de votre vie une personne dans la rue.
Merci beaucoup, Sœur Cindy, d'être venue nous parler de tout cela, de nous ouvrir votre cœur en ce Vendredi Saint. Vous m'avez révélé un secret avant de passer en plateau. Vous vouliez être reporter de guerre. Vous êtes peut-être sœur de guerre, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et merci au père Michel Martin Prével d'avoir introduit si magnifiquement cette journée. Étienne, qu'allons-nous vivre dans quelques minutes ?
Bien, nous allons vivre l'office des ténèbres, qui sera donc le premier office de ténèbres, puisqu'il y en aura un autre demain matin. Un office qui est très particulier. On va dire qu'il est très beau, très intense, très solennel aussi. C'est un office qui est une alternance de psaumes et de lectures regroupées dans ce qu'on appelle un nocturne. Et à chaque nocturne, il y a trois psaumes entrecoupés par trois lectures. Alors au tout début de l'office, on va allumer un chandelier.
D'ailleurs, nous, on a une caméra qui donne sur l'église et on voit l'église dans la pénombre avec... Père Michel Martin Prével, c'est quoi ? C'est un chandelier juif ?
Non, c'est pas. C'est un chandelier qui est tout à fait catholique, sur lequel on va mettre une bougie
avec
à chaque psaume.
Avec vous, on se méfie.
Et c'est pour marquer un peu la progression de l'office. Et tout simplement, on va éteindre. Quelqu'un va éteindre chaque fois qu'un psaume est terminé. On va éteindre. C'est fait une espèce de descente comme ça dans l'obscurité. On enlève de plus en plus la lumière. Et à la fin, il n'y aura plus qu'une seule lumière. Mais Étienne va vous commenter ça en direct quand ça va se passer.